certains d'entre vous connaissent, mais vous donnez quelques éléments. Ensuite, vous donnez un ensemble de, vous proposez un ensemble de définitions sur la laïcité, notion souvent jugée compliquée, sur lequel ça prend des conceptions contradictoires. Et je voudrais vous proposer des éléments de réflexion de façon à ouvrir la réflexion et clarifier les termes du débat. Je ferai un petit peu de retour sur l'histoire avant de parler de la définition que je vous propose et de la manière dont nous appliquons à l'Observatoire cette vision de la laïcité. Et puis j'en viendrai donc au défi, au grand sujet actuel qui touche de près ou de loin à la laïcité. Donc l'Observatoire de la laïcité est un organisme consultatif, ça veut dire que ses avis ne sont pas impératifs pour le gouvernement, rattaché administrativement, je l'ai dit, au service du Premier ministre, mais indépendant dans notre travail. Nous traitons des sujets que nous souhaitons traiter en dehors de ceux pour lesquels nous sommes consultés et nous disons, nous écrivons ce que nous voulons. Cette indépendance a été parfaitement respectée depuis, par les gouvernements successifs, depuis l'origine de l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire a été mis en place au mois d'avril 2013 par le président François Hollande qui m'a nommé président. C'est intéressant sur le plan politique, au sens noble du terme, de savoir qu'en réalité, c'est au départ une idée du président Jacques Chirac. Et qu'il y a eu, nous vivons sur un décret qui date de 2007, qui a été pris à la fin de son mandat, décret signé Dominique de Villepin, Premier ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et qui définit en termes très généraux les missions de l'Observatoire. Et puis, cet Observatoire, créé sur le papier par décret, ne s'est pas mis en place pour des raisons que je ne connais pas exactement. Il y a eu un haut conseil de l'intégration, dans lequel il y avait une mission laïcité, qui a évidemment accompli un certain travail, mais le président Hollande décide de repartir du décret initial, et donc d'installer cet observatoire. Le mandat de l'observatoire est d'une durée de 5 ans. Nous avons été collectivement, et j'ai été renouvelé par le président Macron au mois d'octobre ou novembre, donc par anticipation par rapport à notre échéance. Nous sommes 21 membres, très divers. Il y a d'abord 4 parlementaires, 2 majorités, 2 oppositions, 2 Assemblées nationales, 2 Sénats. L'Assemblée nationale et le Sénat ont procédé récemment à une révision des innombrables organismes auxquels il faut désigner des députés, des sénateurs. Donc l'Assemblée a terminé cette revue et donc nous a désigné les deux collègues. Le Sénat est en cours et j'ai vu le président Larcher il n'y a pas longtemps, on va avoir aussi nos 2 sénateurs. Donc les 2 députés sont Claude Goasguen, qui est député de Paris. Les députés sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et dans l'autre cas par le président du Sénat, après concertation avec les groupes parlementaires. Et puis il y a Nicole Dubré-Chirac, qui est députée de La République En Marche. Donc 4 parlementaires dans peu de temps, 2 pour l'instant. Nous avons ensuite 7 représentants des ministères les plus directement concernés par les questions de laïcité, à vrai dire, d'une manière ou d'une autre, ils le sont quasiment tous. Mais évidemment, pour prendre une personne que vous avez déjà entendue et une autre que vous allez entendre, le ministère de l'Intérieur, avec Arnaud Chaumas, qui siège en général, que vous avez entendu, qui est le responsable du bureau des cultes, le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, avec Jean-Christophe Poncel, que vous entendrez prochainement, qui a hérité d'un nom qui fait un peu étrange, un peu ancien. Il est le conseiller pour les affaires religieuses. Je ne sais pas de quand ça date, mais depuis très longtemps, le ministre des Affaires étrangères a auprès de lui ou d'elle un conseiller pour les affaires religieuses, et c'est actuellement Jean-Christophe Poncel. Je mets un tout petit focus sur cette question. Parmi toutes les tâches que nous confie, que nous sommes assignés, il y a évidemment de mieux faire connaître, défendre, promouvoir la laïcité française à l'étranger. Et nous travaillons beaucoup, évidemment, avec le Quai d'Orsay. Et quand je suis sollicité, ce qui arrive assez souvent pour aller à l'étranger, c'est Jean-Christophe Poncel qui vient avec sa double casquette de représentant de l'Observatoire et de représentant du ministère. Nous avons évidemment, outre l'intérêt des affaires étrangères, la fonction publique, la solidarité, la justice, les outre-mer, bref, 7 ministères au total. Et nous avons ensuite 10 personnalités qualifiées, extraordinairement diverses. Il y a une membre du Conseil supérieur de la magistrature et de la Commission consultative des droits de l'homme, il y a un conseiller d'État, Alain Krisnart, il y a deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, trois inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Il y a Daniel Maximin, que je cite parce qu'il est peut-être un peu plus connu, qui est un écrivain et poète antillais, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire. Et puis, parmi toutes ces personnalités, il y a aussi une élue, une femme, maire de Rennes, Nathalie Appéré. Et puis, des personnalités qui sont un peu plus médiatisées à cause de leurs propres actions, qu'ils mènent avant l'Observatoire, on parlait de l'Observatoire. Je pense à Abdennour Bilar, qui a créé un mouvement qui s'appelle Fraternité Générale et qui a écrit un très joli livre sur la fraternité, qui est par ailleurs inspecteur général de l'éducation nationale et qui a beaucoup contribué à la mise en place des mesures de formation à la laïcité ces dernières années. Et puis il y a Dounia Bouzard, qui a été initialement éducatrice de jeunes enfants à la PJJ, qui a fait une formation en anthropologie, sociologie, qui a monté un cabinet de consultants qui était considéré comme un des plus pointus et qui a créé, c'est là où on a plus parlé d'elle, le centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, avec à la fois de la prévention et des essais de réinsérer des gens qui avaient parti, n'étaient pas pu partir ou qui étaient revenus. Voilà donc pour l'Observatoire. Notre première mission est de conseiller le gouvernement, qui doit lui-même obligatoirement nous saisir sur tout texte, ou projet de texte, bien sûr, législatif ou réglementaire, ayant un impact sur la laïcité, ce qui est fait sans que nous ayons à le réclamer. Nous avons en deuxième lieu à dresser un état des lieux, c'est pour ça que nous appelons Observatoire, aussi complet, objectif et argumenté que possible, qui est la matière d'un rapport annuel. Alors, je vous ai apporté une version papier, c'est assez épais, c'est librement consultable et téléchargeable sur notre site laïcité.gouv.fr, et nous mettons dans ce rapport un maximum d'informations, parce que nous pensons que nous avons un rôle d'éducation citoyenne et civique et que chacun, chacune puisse voir tout ce qu'on peut mettre, bien sûr les comptes rendus d'audition, un certain nombre de notes d'orientation, nos avis et les remontées des ministères. Chaque ministère nous fait chaque année le point. Donc malheureusement, j'ai là le rapport de l'an dernier. Nous avons remis ce matin au président de la République le nouveau rapport annuel, mais je dois également le remettre au Premier ministre, donc je ne peux pas le diffuser pour l'instant, tant que je n'ai pas son feu vert, mais vous aurez au moins cet élément avant d'avoir sur notre site dans les prochaines semaines le rapport 2017-2018, puisque nous faisons nos rapports à peu près à la date anniversaire de notre installation, donc autour du mois d'avril, avril-mai pour cette fois-ci. Donc conseiller le gouvernement, établir un état des lieux, j'y reviendrai. La troisième mission que de fait qui nous a été assignée, qui nous a été demandée, que nous sommes assignés, c'est un travail gigantesque de formation et d'information. Auprès des publics, des intervenants les plus divers. D'abord auprès des simples citoyens. Aussi, bien sûr, dans tout le monde de l'école, pour les quartiers de la politique de la ville, à la demande de collectivités locales, pour qui nous faisons des sessions de formation, nous aidons à rédiger des règlements intérieurs ou des chartes, mais aussi des entreprises, des syndicats, des associations. En à peu près 5 ans, nous avons fait au moins, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tout enregistré, 630 déplacements dans l'ensemble de la France et parfois en Outre-mer ou à l'étranger, le rapporteur général et moi-même. Un déplacement, ça veut dire qu'en général, on a une intervention devant un public scolaire, une intervention devant une association, une session de formation. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin énorme pour les citoyens tout simplement, mais aussi pour les responsables, de savoir ce qu'était la laïcité. Et pour des gens en situation de décision, ils sont encore, moins je l'espère, mais ils sont encore en partie confrontés à une difficulté. Pour un manager, public ou privé, la difficulté est de même nature. J'ai une demande à caractère religieux. Si je dis oui, est-ce que je ne vais pas aller contre le principe de laïcité? Et si je dis non, est-ce qu'on ne va pas m'accuser de discrimination? Donc tout notre travail consiste à dire les libertés et les interdits, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et du coup, nous avons publié des guides. Vous voyez qu'ils se présentent sous une forme assez courte. Un pour les collectivités locales, un pour l'entreprise privée, un pour les structures socio-éducatives, un pour les établissements publics de santé. Nous allons publier dans les prochains jours un guide sur le sport. J'en ai parlé récemment avec Mme Laura Flessel, nous avons élaboré avec la direction des sports. Et nous allons publier également un guide spécifique sur le football à la demande de la Fédération française de football. Et puis, au-delà de ces guides sur laïcité et gestion du fait religieux, nous avons éprouvé le besoin de rappeler globalement les libertés et les interdits dans le cadre laïque, dans les différents secteurs, et puis d'expliquer qu'il y avait des instruments, des outils juridiques, un cadre légal pour sanctionner des comportements qui sont contraires aux exigences minimales de la vie en société. Cette formule un peu compliquée vient du Conseil constitutionnel, mais ça vise par exemple tout ce qui touche aux pressions qui peuvent être exercées pour empêcher de pratiquer sa religion, pour obliger à pratiquer une religion, et puis plus généralement, de manière plus importante, tout ce qui touche à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour traiter ces questions-là, qui sont évidemment liées à la laïcité, il n'y a pas besoin d'invoquer forcément la laïcité. Une femme dans un restaurant n'est pas servie parce qu'elle est dans un quartier où ce restaurant ne veut pas servir des femmes. Ça a été le cas d'un reportage de France 2 dont on a parlé pendant la campagne présidentielle à Sevran. Benoît Hamon était interrogé là-dessus. Pour votre information, après en avoir parlé avec le CSA, j'ai quelques doutes, et d'ailleurs un haut responsable l'a dit chez eux, la manière dont ils ont procédé. Mais enfin, ça s'est produit, ça peut se produire, donc peu importe. Ce que nous disons, c'est que si on refuse de servir une femme, c'est une discrimination à l'égard des femmes parce qu'elles sont femmes. Et c'est un refus de vente. Alors la femme est en droit de porter plainte, dans certains cas, dans certains quartiers, elle ne le fera évidemment pas, elle n'osera pas, elle ne pourra pas le faire. Donc ce que nous expliquons dans notre guide, c'est que une association peut avoir intérêt à agir, une association de femmes, une association de quartier, une association de lutte contre les discriminations. Et si elle ne peut pas le faire, parce que là aussi c'est pas toujours facile, nous demandons que le procureur de la République porte plainte. Ce qui n'est pas systématique aujourd'hui et ce qui est une des mesures que nous avons suggérées au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et au Président de la République. Voilà donc pour quelques-unes de nos productions, beaucoup d'avis sur des sujets très, très divers, le financement des cultes, la situation particulière de l'Alsace-Moselle, qui vit sous le régime du Concordat, la question du fait religieux à l'université. On pourra en parler si vous le souhaitez dans un instant. J'en reviens maintenant à mon deuxième point, qui est de vous proposer un petit rappel historique et une définition de la laïcité. Je crois que c'est important sur ce sujet-là, peut-être encore plus que d'autres, de connaître notre histoire. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire et je vais aller à grands traits, juste pour vous donner des repères pour votre réflexion. Je commence en général à la Renaissance, ce qui peut surprendre, parce qu'évidemment, ni le mot, ni même l'amorce du concept n'existe vraiment. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire à la Renaissance, c'est que des hommes et quelques femmes décident de penser par eux-mêmes, de s'affranchir des dogmes, qu'ils soient scientifiques ou religieux, de se forger par la raison leurs propres convictions. Ça, c'est typiquement la démarche laïque, une démarche d'émancipation de ses conditionnements et de se forger son opinion, non pas seulement sur ses émotions, mais aussi sur la raison. Il y a bien sûr tout le mouvement des Lumières, ça va de soi, c'est pas la peine d'y revenir et d'insister. Et puis il y a, et là, on rentre, sinon dans le mot, du moins dans la philosophie, le concept de laïcité, la Révolution française. La Révolution française, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pose en fait ce qui est toujours aujourd'hui le premier pilier de la laïcité, qui est une liberté. Que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 10 ? Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc le principe, c'est la liberté. La limite, la première limite, il y en a une deuxième que je vais vous indiquer, c'est l'ordre public, qui a été défini, précisé par une abondante jurisprudence. C'est un régime de liberté qui, pour l'essentiel, est valable aussi pour d'autres libertés, liberté d'expression, liberté politique, liberté syndicale, mais pas seulement pour la liberté de conscience et pour ceux qui sont croyants, pour la liberté de religion. La deuxième limite, c'est l'article 4, qui dit en substance la liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Donc deux limites, l'ordre public et la liberté d'autrui. Pour autant, le chemin à parcourir jusqu'aux grandes lois laïques est long. Tout le 19e siècle, une partie du 20e, et c'est encore présent aujourd'hui dans le débat public, même si ça n'est plus au cœur du débat, mais c'est présent, c'est les rapports des Églises et de l'État, en fait de l'Église catholique et de l'État. avec deux terrains de conflit idéologiques, politiques, parfois des violences. Le premier terrain de conflit, c'est l'enseignement. Quelle place pour un enseignement privé catholique et place pour un enseignement public de l'école dite laïque. Et puis, il y a le rapport, qui est toujours une question, entre la loi religieuse et la loi civile, la loi démocratique, quand on est en démocratie. Les grands épisodes, c'est bien sûr les lois Jules Ferry des années 1880 sur l'école publique laïque, gratuite et obligatoire, et puis la grande loi de 1905, qui curieusement ne prononce pas le mot laïcité, mais le fondement, loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi de 1905 est le résultat d'un très long travail, d'un très long débat parlementaire, au moins 3 ans, avec, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire, des débats d'une très grande qualité, d'un très grand intérêt. Et deux conceptions s'opposent, qui existent encore aujourd'hui, même si le conflit, encore une fois, n'est pas notre problème central dans les défis de la laïcité. Une conception anticléricale contre l'influence du clergé, voire anti-religieuse, contre la religion, ou contre les religions. Alors, on ne prononce pas la phrase, se fera de ma part, célèbre de Marx, la laïcité, c'est formidable, la religion est l'opium du peuple, extraordinaire comme lapsus. Mais l'idée est là, notamment chez Émile Combes, et chez aussi un remarquable orateur, un des plus brillants, qui est Maurice Allard, député du Var, puis un autre député dans ce camp-là, qui est Chabert, député du Rhône. Et puis une conception qui veut une loi d'apaisement, où les croyants et les non-croyants puissent chacun, dans leur liberté, se reconnaître. Elle est portée par le rapporteur, Aristide Briand, qui est soutenu par Jean Jaurès et par Georges Clemenceau. Et c'est avec des votes généralement assez larges, leur conception qui l'emporte. Il y a deux anecdotes qui peuvent paraître mineures, mais qui, à mon avis, éclairent nos réflexions d'aujourd'hui, même si c'est il y a bien longtemps. Deux débats très concrets. Le premier, faut-il interdire les processions ? Sachant que les processions ont évidemment une signification religieuse et parfois d'ailleurs aussi une signification politique. C'est ce que demandent les partisans d'une laïcité qui ne laisse pas de place excessive à leurs yeux à la religion. Et Aristide Briand dit bien sûr qu'il faut les autoriser, article 10, c'est manifester ses convictions, même religieuses, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public, comme toute manifestation sur la voie publique. Le deuxième sujet, c'est faut-il interdire la soutane des curés ? Le député du Rhône, dont je parlais il y a un instant, s'adresse au rapporteur avec une amabilité et une naïveté feinte. Monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour le travail considérable que vous avez accompli, mais vous avez oublié quelque chose, oublié que vous allez évidemment réparer, vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. Et Aristide Briand répond, pas du tout, c'est tout à fait délibéré. Et il a ce raisonnement, si vous vouliez interdire la soutane des curés, nul doute que l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Et il ajoute, tout le monde a le droit de porter la soutane, même les curés. Et il ajoute aussi, nous n'allons pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. Je ne dis pas que la soutane, c'est le voile, encore moins la burqa, mais c'est intéressant de voir dans une autre époque ce type de débat. Le débat n'est pas clos immédiatement, une fraction de l'Église catholique tarde à accepter cette loi, et le débat de tout le XXe siècle, c'est la place de l'enseignement privé, avec une position dans une partie des laïcs qui dit argent public à l'école publique, argent privé à l'école privée, donc pas de financement des écoles privées par de l'argent public. Le débat est clos, il n'est pas clos, mais enfin, il est... L'état des lieux du rapport des forces s'établit par la loi Debré de 1959, qui dit, à condition que les établissements d'enseignement privé, confessionnel ou pas, reçoivent tous les enfants sans distinction, première condition, à condition qu'ils appliquent les programmes de l'éducation nationale, deuxième condition, et à condition qu'ils se soumettent au contrôle de l'éducation nationale, alors l'État, la République, peut les subventionner. C'est une sorte de reconnaissance d'un service public exercé par des personnes de droit privé. Et puis, tout d'un coup, en 1989, le débat change de nature sans que personne ne s'en rende compte, ou presque. C'est l'affaire du foulard de Créteil. Un principal de collège qui exclut 3 jeunes filles parce qu'elles portent un foulard. Ce qui est intéressant sur le plan de la propagation des idées et du débat politique, c'est que cet événement se passe, et qu'est-ce qui se passe dans la presse? Rien. Puis, au bout de quelques jours, un journal local fait un compte-rendu assez factuel. La presse nationale ne le voit pas. Puis, un journaliste de Libération, qui habite sans doute dans le coin, tombe sur le compte-rendu du journal local, et dit, ça, c'est une affaire énorme, et fait un grand papier. Et du coup, vous avez 500 journalistes du monde entier qui viennent là, avec des couvertures extrêmement dramatisantes d'un certain nombre d'hebdomadaires, et puis des débats comme aiment bien nos intellectuels en France, et j'ai des amis des deux côtés, Vichy de l'école républicaine, Waterloo de la laïcité, etc., etc., de manière à créer de l'ambiance dans le débat. Que fait le gouvernement? Le gouvernement demande l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État dit qu'en l'absence de loi, il faut essayer de régler ça par dialogue au cas par cas. Ce qu'essaye de faire le gouvernement, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que les conflits sont nombreux, se multiplient, les procès sont nombreux, et il faut attendre longtemps, beaucoup trop longtemps à mon avis, pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, présidée par Jean-Louis Debré, alors président de l'Assemblée nationale, à laquelle je participe d'ailleurs comme député à l'époque, puis une commission, dite commission Stasi, commission d'experts, et les deux aboutissent à la même conclusion, il faut une loi, et ce sera la loi de 2004, qui proscrit les signes manifestant ostensiblement une conviction, une appartenance religieuse à l'école publique. Cette loi fonctionne. C'est le constat que nous faisons à l'Observatoire. Ça veut dire que depuis très longtemps, il n'y a plus de contentieux, et les cas de conflit sont assez rares, voire très rares, et réglés généralement par le dialogue. Et puis, quand on fait ce tableau historique, il y a la loi de 2010, dite loi anti-burqa, qui en fait est une loi qui interdit de dissimuler son visage en public. Mais elle n'est pas prise sur le terrain de la laïcité, parce qu'on ne pouvait pas trouver de terrain juridique là-dessus. Elle évoque l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle est prise sur le terrain de la sécurité. Et donc elle s'applique, elle a été appliquée par exemple aux casseurs en cagoulé en bordure des manifestations. Cette loi, comme la loi de 2004 que j'évoquais, comme tous nos textes qui peuvent être considérés comme portant atteinte aux libertés, sont soumises au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque nous sommes signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur la loi de 2004, aucun problème. Sur la loi de 2010, un débat beaucoup plus vif, visiblement, qui dure. Et un jugement qui finalement valide la loi de 2010, mais avec, si je traduis en termes un peu simples, des considérants du genre jusqu'ici mais pas plus loin, qui balaye, si on lit bien le texte, l'argument de la sécurité, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une loi pour demander quand c'est dangereux que quelqu'un dissimule son visage en public, mais qui tient un raisonnement, les juristes parmi vous, d'une audace jurisprudentielle absolument prodigieuse. La Cour européenne des droits de l'homme dit ceci, ne pas dissimuler son visage en public fait partie du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en France. Il n'y a évidemment aucun texte européen, ni même aucun texte français qui définisse le vivre ensemble, même si on en parle souvent quand on parle des questions de laïcité, c'est pour ça que je dis que c'est une audace jurisprudentielle. Et quand j'ai vu ce texte, j'ai eu deux réactions successives que j'ai encore dans ma tête et que je vous partage, je livre avec vous. Première réaction, ils ont mis le doigt sur quelque chose de très juste et très profond. Deuxième réaction, est-ce que c'est un juge européen ou français, de définir ce qu'est le vivre ensemble, parce que ce n'est pas plutôt au Parlement. Voilà, je vous soumets ces deux réactions successives que j'ai eues. Voilà pour le rappel historique. J'en viens à ma définition, qui n'est pas très longue, et qui, je pense, on peut discuter sur le plan intellectuel, mais est acceptée par une grande majorité de gens qui réfléchissent sur la laïcité. La laïcité, c'est un principe. Distinction qui peut paraître un peu casuistique, mais qui n'est pas sans importance entre principe et valeur. Liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs. La laïcité, c'est un principe, et un principe politique. Ça veut dire qu'il s'applique à la police, à la vie de la cité, qu'il ne se réduit pas à des textes juridiques, même s'il se traduit dans des textes juridiques. Principe politique qui repose sur trois piliers. Premier pilier, la liberté, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le premier historiquement, c'est le premier chronologiquement, et c'est dans l'esprit de la loi de 1905, je crois, le plus important. Liberté de croire ou de ne pas croire, pas répandue sur la planète entière. Liberté de changer de religion, pas partout le cas. Liberté de manifester ses convictions, même religieuses, pourvu que, etc. Liberté de culte, qui est garantie, c'est donc pas une loi anti-religieuse. Deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État, c'est le titre même de la loi du 9 décembre 1905. Ça veut dire que l'État n'a pas interféré dans l'organisation des religions, et notamment dans l'organisation des églises et de l'Église catholique, mais que les religions n'ont pas à imposer leurs lois à l'État. C'est une phrase d'Aristide Briand dans le débat, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne fait pas la loi. C'est aussi une phrase de Victor Hugo dans un débat au moment où on commence à voir apparaître le terme laïcité. Les chercheurs discutent sur qui a été le premier et il dit « L'Église chez elle, l'État chez lui ». Cette séparation a une conséquence très importante. C'est pour nous, Français, dans notre conception républicaine de la laïcité, la neutralité de l'État et au-delà de l'État des collectivités publiques et au-delà des collectivités publiques, des services publics, même s'ils sont exercés par une personne de droit privé. Ça veut dire neutralité au sens où un agent public ne doit pas laisser connaître ou supposer ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques. C'est un garant d'égalité dans nos yeux, à nous Français. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bon badge, du bon parti, du bon syndicat ou de la bonne religion pour être traité à égalité. Mais cette neutralité s'applique aux agents publics, pas aux usagers de services publics. Et j'ai eu un jour un préfet, vous connaissez cette anecdote, je faisais une séance de formation pour les préfets, qui m'a dit « Monsieur le Président, je suis très vigilant sur la neutralité du service public. » Bravo, monsieur le préfet. L'autre jour, j'ai vu une dame qui faisait la queue à un guichet de la préfecture qui avait un foulard. Je lui ai dit « Madame, vous quittez le foulard, vous quittez la préfecture. » « Non, monsieur le préfet. » En l'état actuel des textes, non, sauf si elle crée du désordre, sauf si elle crée du trouble, sauf si elle fait du prosélytisme. De la même manière qu'un parent d'élève peut venir avec un signe. Encore une fois, la limite, c'est la liberté des autres et l'ordre public. Le troisième pilier, c'est la citoyenneté. Donc liberté, neutralité de l'État et du service public, et citoyenneté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes évidemment différents de culture, d'origine, de tradition, de conviction, de centre d'intérêt, de sentiment d'appartenance. Et dans la République laïque, c'est une source de richesse. Mais à une condition, c'est que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord et avant tout, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Tous les mots sont importants. Et pourquoi citoyennes et citoyens? Parce que c'est finalement, là encore, la Révolution française, la fraternité. Donc on retrouve bien la déclinaison, liberté, égalité, fraternité de la devise républicaine. Encore une fois, je crois que cette définition, on peut discuter sur le plan technique, mais sur le plan politique, n'est guère discutable. Mais après, les difficultés commencent. Avec ces définitions, avec ce principe, qu'est-ce qu'on fait? Comment appliquer la loi? Nous faisons nôtre de la formule employée dès le début de ce mandat de ministre de l'Intérieur par Bernard Cazeneuve. Il n'y a pas besoin de durcir la loi. Il faut la connaître, l'appliquer, la faire respecter avec sérénité et fermeté. Et les deux mots sont également importants. Deux cas concrets, il y a beaucoup d'autres cas qui ont défrayé la chronique, dont on pourra parler, les crèches de Noël, les burkinis et d'autres. Je vais prendre deux cas concrets qui sont d'importance pratique plus générale. La question des repas à l'école, dans les cantines scolaires, c'est traité dès notre premier guide sur les collectivités publiques. Nous avons tous nos guides dans une même structure. Que dit la loi? Que dit la jurisprudence? Il y a une jurisprudence très abondante du Conseil d'État et de la Cour de cassation, chacun dans leur domaine, et qu'est-ce qui nous semble être l'esprit de la loi et des bonnes pratiques? Donc pour les cantines scolaires, nous disons un peu à la surprise générale, la loi ne dit rien. Ne dit rien parce que c'est un service public facultatif. Ça veut dire que les communes, la plupart, le mettent en place, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Donc il n'y a pas d'obligation en termes de menu. Il y a des obligations en termes d'hygiène, en termes de sécurité. Et nous disons, même s'il n'y a pas d'obligation, nous recommandons ce que beaucoup de municipalités, de gauche, de droite ou du centre, font depuis longtemps, c'est d'offrir du choix. Un point de vocabulaire important, nous n'employons pas l'expression « menu de substitution » parce que ça vise en fait une demande uniquement à caractère religieux. Or, il y a d'autres éléments de choix que les caractères religieux. Ça permet de répondre, offrir du choix, viande ou pas viande, aux souhaits des végétariens. Ça permet de répondre aux souhaits d'un enfant, d'un jeune qui un jour ne veut pas manger de la viande et veut manger autre chose. Et ça permet de répondre aux enfants juifs ou musulmans qui ne veulent pas manger de viande de porc. Mais il faut toujours chercher avec la laïcité ce qui rassemble, le plus grand commun des dénominateurs, non pas ce qui divise. Et pour traiter les demandes à caractère religieux, encore une fois, ni mieux ni moins bien que les autres. Si c'est faisable, voilà comment il faut s'organiser. Encore une fois, la pratique est très répandue. Nous regrettons que, voici quelque temps, le maire de Chalon-sur-Saône soit revenu sur cette pratique qui existait dans sa commune depuis Dominique Perben, ministre de la Justice, personnalité éminente de notre histoire politique, au motif qu'il ne voyait pas pourquoi on servirait, entre guillemets, des menus de substitution. Ça a été déféré au tribunal administratif de Dijon, donc on n'a pas une jurisprudence, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Le tribunal administratif de Dijon a tenu un raisonnement intéressant. Il a dit, la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, la Charte internationale des droits de l'enfant. Et cette charte dit que, dans toute décision, à quelque niveau que ce soit, on doit prendre d'abord en considération l'intérêt de l'enfant. Et pour le tribunal administratif de Dijon, le maire de Chalon-sur-Saône n'a pas pris en compte les intérêts de l'enfant. Affaire à suivre. Deuxième exemple, les demandes de congé pour un motif à caractère religieux. Et c'est typiquement là où les managers, s'ils n'ont pas été formés et informés, et s'ils sont soumis éventuellement à des gens de mauvaise foi, ne sont pas toujours à l'aise. Nous disons là encore qu'il faut regarder des critères objectifs. Une demande de congé pour un motif religieux, en dehors des fêtes légales, c'est ni mieux ni moins bien qu'une demande de congé parce qu'on a un deuil, parce qu'on a un enfant malade, parce qu'on a une obligation familiale. Et le critère doit être objectif. Il est à peu près le même dans le privé et dans le public. Est-ce que si moi, responsable, manager, je dis oui, ça va perturber le fonctionnement de l'atelier, de l'usine, du magasin? Donc je suis en droit de dire non. Si ça peut être compatible avec le bon fonctionnement, je peux dire oui. Vous voyez que c'est des principes finalement assez simples qui règlent quand même beaucoup de cas de la vie quotidienne. On n'a pas tous les jours le problème de savoir si on peut avoir une crèche dans une mairie ou si on a des femmes qui risquent de porter ou qui portent le burkini. Les repas, les congés, c'est quand même pas tout à fait rien. Alors j'en viens, et ce sera ma dernière partie, aux défis, aux grands enjeux. D'abord, notre constat sur l'état des lieux que nous dressons dans le rapport annuel, et ce que je vous dis là est vrai aussi pour le rapport de cette année. Notre constat est le suivant. Premier point, et ça vaut dans tous les secteurs, il y a une préoccupation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande sur le fait religieux, la gestion du fait religieux et la laïcité. Dans la société, dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les administrations. C'est évidemment consécutif aux attentats. Mais ça n'est pas pour nous une mauvaise chose. Ça veut dire qu'on parle de sujets dont on n'osait pas parler. On parle de difficultés ou d'atteintes à la laïcité dont on n'osait pas trop parler. Et on s'approprie la laïcité. Et il est en train de se produire, c'est aussi notre constat, quelque chose qui est une excellente nouvelle. Moi, je suis frappé par le nombre de personnes qui viennent, qui veulent réfléchir, qui discutent dans les cercles les plus divers. Nos concitoyens sont en train de se réapproprier le concept de laïcité, le principe de laïcité. Alors qu'avant, dans les discours, on disait « Vive la laïcité, vive la République », et une fois qu'on avait salué ces deux grandes icônes, on passait à autre chose. Maintenant, on ne peut plus faire comme ça. On doit parler des difficultés et des manières de les résoudre. Et c'est donc positif. J'ajoute que nous avons fait un énorme travail de formation. Nous avons contribué à former près de 250 000 personnes, beaucoup dans l'éducation nationale, 25 000 pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, précisément sur ces questions, mais aussi les citoyens. Deuxième constat, les tensions et les crispations sont en forte montée et ça s'aggrave d'année en année, cette tension et ces crispations. Une partie de l'explication est à rechercher dans les tensions et les crispations qui traversent la société française en général et qui s'exacerbent sur des sujets aussi importants et parfois aussi viscéraux que la laïcité et la gestion du fait religieux. Et ça, c'est très préoccupant. Pour autant, y a-t-il plus de conflits? Nous n'avons pas d'outils scientifiques sérieux pour le dire. On a l'impression qu'il y a plus de conflits parce qu'on en parle beaucoup plus. Et c'est bien, parce qu'ils sont hyper médiatisés. Et prenez par exemple la question des crèches. J'ai eu des questions en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que brusquement la France entière est à feu à sang sur les crèches? Il y a 5 cas en France. Ils sont tous des cas où il n'existait pas de tradition et où des élus ont décidé de mettre une crèche dans une mairie. Ce qui est, comme le Conseil d'État l'a dit, contraire à la laïcité. Mais enfin, ce n'est pas une espèce de rigidification de la laïcité, ce n'est pas une espèce de phénomène nouveau, c'est l'application d'un droit que le Conseil d'État a rappelé. Alors ce Conseil, qu'est-ce qu'on a comme élément un peu plus concret? Dans l'éducation nationale, et on demande au ministère, on a travaillé avec le ministre, de nous remonter des cas, de mettre en place des structures qui permettent de connaître les atteintes à la laïcité, sachant que ce n'est pas très facile à identifier. Il faudra qu'on ait un travail rigoureux. Mais c'est bien que les enseignants qui sont en difficulté puissent saisir une équipe pédagogique localement ou le ministère. Un enfant qui dit « mais moi je ne suis pas d'accord, c'est pas ce qu'on me dit à la maison ». Le professeur explique, il dit « ah oui, c'est très bien ». Est-ce que c'est vraiment une atteinte à la laïcité dès lors qu'en peu de temps, il s'est rangé au fait que l'école est là pour transmettre un savoir et que la foi est d'un autre domaine? Par contre, il y a des cas où c'est une offensive, parfois instrumentalisée par les parents. Bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que les professeurs sont plus mal à l'aise aujourd'hui qu'hier. à cause des tensions qui vont aussi à l'école. Et donc, c'est des sujets qu'ils hésitent un peu à aborder. Et pourtant, il y a un enseignement moral et civique qui est un des grands acquis de ces dernières années, on pourra en parler. Il y a un enseignement laïque du fait religieux, qui est une suggestion ancienne du rapport de Bray, qui commence à se mettre en place, mais sur lesquels les profs sont mal à l'aise, et nous avons beaucoup insisté pour qu'on les outille beaucoup plus, et en formation initiale et en formation continue. L'université, dans notre enquête, nous avons travaillé avec la conférence des présidents de l'université. Nous avons envoyé un questionnaire à 130 établissements universitaires, en anonymisé, en disant, en gros, vous n'avez pas de mauvais points, si vous dites que vous avez des problèmes, au contraire, ça vous demande de le dire. La conférence des présidents d'université a elle-même interrogé toutes les universités. Nous avons auditionné 23 syndicats, la totalité des syndicats. À part l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, qui a un peu flotté au cours de l'audition, aucun nous a dit que le port du foulard, c'est de ça qu'il s'agit, il y a d'autres problèmes qu'il faut traiter, était un problème grave à l'université. Aucun nous a dit qu'il était favorable à l'UO. On peut être favorable à l'UO malgré tout, mais je vous donne l'état des lieux tel qu'on l'a reçu. Et dans les cas de conflits, on en trouve assez peu. On trouve plus de cas de conflits d'appropriation des locaux, éventuellement de prosélytisme agressif, de dissimulation pendant l'examen, sans que ce soit très nombreux. Deuxième cas, les hôpitaux. La Fédération hospitalière de France a fait avec nous une enquête auprès des directeurs d'établissements en particulier, et nous en avons auditionné un certain nombre, et ils ont posé une question qui nous a paru un peu entortillée, pour parler familièrement, un peu bizarre, qui s'est révélée très instructive. Avez-vous eu connaissance au cours de l'année écoulée de problématiques liées à la gestion du fait religieux? Je demande un peu ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est le taux de réponse oui. Un tiers, considérable, beaucoup plus que ce que nous pensions, la Fédération et nous. Dans ces problématiques, ces situations où là, il y a eu des interpellations, des discussions, combien de cas de conflits? 10%. 10% d'un tiers. Et dans ces conflits, combien ont été résolus par le dialogue? À peu près la moitié. Voilà l'état des lieux, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser passer quoi que ce soit. Et nous insistons qu'il y ait peu de cas ou beaucoup de cas, la règle de la laïcité, la loi républicaine doit s'appliquer. Et on doit savoir qu'il faut l'appliquer. Il y a des tas d'exemples. Dans un hôpital, nous avons diffusé notre document, des chartes ont été établies. On invoque parfois, de bonne foi ou de mauvaise foi, la liberté de choix du soignant par le malade, qui ne s'applique pas qu'au secteur libéral, qui s'applique aussi à l'hôpital. Oui, si l'organisation le permet. Mais si quelqu'un refuse, c'est un homme, que sa femme soit soignée par un homme, si ça complique le service, la réponse est non. S'il y a urgence, surtout s'il y a urgence, la réponse est non. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais il faut que la personne qui est confrontée à une demande un peu agressive, généralement d'un mari ou d'un compagnon, soit soutenue par l'infirmière-chef, par la direction de l'établissement. Même chose quand dans un TER, ERER, TGV, un homme refuse d'être contrôlé par une femme. Refuse de présenter son titre de transport. Amende. Mais il ne faut pas que la contrôleuse soit toute seule. Il faut qu'elle sache comment faire, qu'il y ait une procédure qui lui permette d'être soutenue. Donc c'est pas, même si les cas sont pas forcément aussi nombreux qu'on a l'impression, il faut tolérance zéro, parce que c'est là où on voit les frontières entre ce que la laïcité permet et ce qu'elle interdit. Voilà donc pour l'application de ce principe dans les grandes questions. J'évoquais la tension, la difficulté des débats. J'ai cru pendant peu de temps que c'était lié à la résurgence de la question. Enseignement privé, ce n'est pas la question centrale, même si elle est présente dans le débat. La première question, il y a en fait trois problèmes qui sont nos grandes questions, nos grands défis. Le premier, c'est ce que j'appelle la question sociale. Je m'explique. Il y a indiscutablement des phénomènes de communautarisme et de pression communautariste plus forts aujourd'hui qu'hier, dans un nombre non négligeable de quartiers. Mais là encore, il ne faut rien laisser passer, je disais l'exemple de la discrimination à l'égard des femmes. Mais s'il y a des pressions communautaristes, pardonnez-moi cette lapalissade, c'est qu'il y a des communautarismes, qu'il y a des communautés, et c'est qu'il y a donc des développements homogènes, sans mixité sociale. Et à partir du moment où on n'a pas de mixité sociale, c'est la loi du quartier qui tente à s'imposer, que ce soit la loi de l'économie de la drogue au niveau économique et judiciaire, ou que ce soit la loi de l'imam du coin. Donc, pour nous, un point essentiel pour la laïcité, mais plus que la laïcité pour la cohésion nationale, c'est d'aboutir à plus de mixité dans l'habitat, dans l'urbanisme et dans l'école. C'est très difficile. il y a eu 30 ans de politique de la ville, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite, qui a produit des résultats. La situation serait bien plus grave s'il n'y avait pas cette politique. Il y a des communes, les agglos, qui ont fait des travaux remarquables. Il y a quelques expériences, une dizaine en France, très intéressantes, de redessiner la carte scolaire. Mais c'est vraiment une question clé pour le vivre ensemble et pour la laïcité. Et Jaurès le disait déjà, la République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. Donc c'est le premier défi auquel nous sommes affrontés et difficile à relever. Deuxième défi, la question de l'islam, évidemment. Ce n'est pas être anti-musulman de dire qu'il y a une question spécifique avec l'islam pour des tas de raisons. La première, c'est que l'islam est apparu plus récemment dans notre histoire, même si on ne l'a pas toujours réalisé. Loi de 1905, moins de 10 ans après, les parlementaires sont sans doute en partie les mêmes, appellent à contribution publique par les pouvoirs publics, l'État, pour construire une mosquée, pour remercier les combattants musulmans de la Grande Guerre. Pas de débat, pas de soucis à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord une visibilité plus grande, sans doute d'un certain nombre de religions et de faits religieux, mais notamment, et c'est très frappant, de l'islam. Que culturellement, ça se cristallise autour du port du voile, qui n'est pas dans notre tradition, même si dans les campagnes, mais pour d'autres raisons, les femmes portaient un foulard, même si dans l'espace méditerranéen, nord au sud de la Méditerranée, c'était aussi comme ça. Mais là, un foulard motivé principalement ou supposé motivé pour des raisons religieuses, ce n'est pas notre culture historique et notre culture dominante. Donc c'est normal que ça choque, ce n'est pas être islamophobe que de le dire, c'est un fait. Pour autant, ce n'est pas parce que ça choque et que ça peut être en plus combattu du point de vue du féminisme que ça doit être interdit. Parce que sinon, on interdit des tenues, or le seul critère pour nous qui vaille, c'est les comportements et les paroles. La laïcité, on peut combattre politiquement, et c'est normal dans le débat démocratique, le port du voile. Encore faut-il d'ailleurs discuter avec des femmes qui portent le voile, car il y a des raisons diverses. Il n'y a pas qu'une raison de soumission, il y a une raison d'affirmation identitaire, tout en respectant la laïcité chez certaines, notamment des jeunes éduqués. Mais la laïcité, c'est la liberté de porter le voile, si on le veut, à condition qu'on ne fasse pas de prosélytisme, pas d'agression, pas de trouble public, ou la liberté de ne pas le porter. C'est deux libertés symétriques, et la liberté de ne pas le porter n'est plus garantie dans un certain nombre de banlieues françaises. Il faut savoir aussi qu'on est devant une organisation difficile du culte musulman, qui n'a pas la même structure, la même tradition qu'ont pu avoir pour nous, par exemple, les catholiques, les juifs ou les protestants, même dans un autre registre, les bouddhistes. Il y a des efforts qui ont été faits par les ministres de l'Intérieur successifs pour avoir des interlocuteurs. Ce n'est pas contre la laïcité. Il faut bien discuter de l'organisation des cultes, de l'organisation de la vie ensemble. Et ça aboutit au Conseil français du culte musulman, qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, qui est très critiqué, mais dont nous considérons que c'est une avancée. Il faut sûrement le perfectionner. Le président de la République a dit qu'il y réfléchissait. Beaucoup d'autres ministres sont intéressés. Jogues, Chevènement, Cazeneuve, Valls.
Est-ce que là, il y a juste cette deuxième pilier?
Non. Non, parce que la séparation de l'Église et de l'État veut dire que l'État ne dicte pas la loi religieuse. L'État ne doit pas dicter une organisation. C'est toute la difficulté. Ça pourrait l'être. Par exemple, nous estimons que si on voulait, comme je l'ai lu ici ou là, faire un concordat pour les musulmans, outre le fait que c'est contraire à la Constitution, parce que pourquoi on le fait pour les uns et pour les autres, c'est évidemment contraire à la laïcité. Encore pire, si je puis dire, nommer un grand imam. Et en plus, ça ne marchera pas parce qu'ils ne seront pas reconnus. Donc, mais parler, voir comment les gens s'organisent, comment on trouve des interlocuteurs pour toute la gestion des cimetières, des cultes, de la vie publique, ça c'est tout à fait légitime et ça se pratique depuis longtemps et sans problème. Donc, c'est aux musulmans eux-mêmes de s'organiser. Ce n'est pas à l'État de les organiser. On peut discuter, suggérer... voire exiger d'avoir en face de soi des interlocuteurs représentatifs. Mais le Conseil français du culte musulman fait un certain travail qui n'est pas négligeable. Il a par exemple publié, après les attentats de 2015, un manifeste citoyen des musulmans de France. Il n'était pas seul, il y avait la Grande Mosquée de Paris, des grandes mosquées, des grandes fédérations. Et je me livre toujours à l'exercice de savoir si, devant l'auditoire que vous êtes, certains d'entre vous ont entendu parler de ce manifeste citoyen des Français musulmans. Finalement, la réponse est comme ici, personne. Personne, alors que c'est un texte extrêmement important, il n'est pas long, hein, je vais vous le lire.
Avec une personne, c'est ça qui va parler ?
Quelqu'un l'avait entendu parler vaguement. Ça vous dit quelque chose ? Mais vous êtes tous les publics, quand même comme le vôtre, informés, intéressés par la laïcité, me font la même réponse. Donc, publié après les attentats de novembre 2015, ce manifeste citoyen exprime avec la plus grande force la condamnation totale et sans réserve de ces actes barbares qu'aucune loi ni morale ne pourrait justifier. Il affirme que le pacte républicain constitue le socle sur lequel est bâtie notre société, qu'aucune considération religieuse, philosophique ou idéologique ne pourrait venir remettre en cause. Il proclame son attachement au principe de laïcité, garant de la liberté de conscience et du respect de la diversité des convictions et des pratiques religieuses. Bernard Cazeneuve, qui évite en général le grand lyrisme, a dit que c'était une véritable déclaration d'amour à la République. Je ne dis pas que tous ceux qui ont signé ça sont sincères, mais c'est un fait politique qui existe et dont on ne parle pratiquement pas. Et si on veut avoir une vision d'ensemble, il faut avoir la vision d'une progression, en effet, du foulard, qui pose des conflits, un débat, mais aussi la vision de cette déclaration. Troisième grande question, après la question sociale, en fait, la mixité sociale, après la question de l'islam, j'ajoute d'ailleurs par parenthèse pour la question de l'islam, que je pense qu'il est assez impropre de parler seulement de l'islam en général. Alors certes, les attentats terroristes se font au nom de l'islam, d'un islam terriblement dévoyé, mais au nom de l'islam, mais parfois on parle de l'islam comme si c'était une réalité la même sur toute la planète. Or, ce qui se passe en Indonésie, ce qui se passe à Singapour, ce qui se passe en Malaisie, et pas ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passe en France, il y a des pratiques musulmanes différentes en France. Et donc il faut tenir compte aussi de cette réalité, ce qui n'empêche pas de parler d'islam, mais il faut aussi parler des pratiques, et il faut dans les pratiques souligner, quels que soient les combats que nous avons menés contre la radicalisation et pour la prévenir, que la grande majorité de nos concitoyens de culture ou de religion musulmane pratiquent leur religion sans déranger les autres. Donc il faut voir ce tableau d'ensemble, des pressions auxquelles il ne faut pas céder, des paroles ou des actes qu'il faut sanctionner, et des pratiques qui sont dans une grande proportion des cas, je dirais, compatible avec les lois de la République, sans problème. Mais la question de l'identité nationale, cette question se trouve posée pour une nation comme la France, indépendamment même des questions de religion, indépendamment même de l'islam. Qu'est-ce que la France dans une économie mondialisée, dominée par des phénomènes de finances souvent spéculatives? Qu'est-ce que la France dans une Europe, au moins qu'on puisse dire, et qu'elle déçoit beaucoup quand elle n'apparaît pas comme un vecteur de déstructuration de l'emploi et d'introduction d'un libéralisme critiqué par un certain nombre de Français et de parlementaires? Qu'est-ce que c'est que la France qui est devenue plus girondine que jacobine, où il n'y a plus cette loi qui faisait qu'à 9h, partout, les maîtres dans l'instruction civile disaient la même chose sur tout le territoire de la République, ou donc des solutions différentes? Ce qui n'est pas notre conception historique, jacobine, y compris de la laïcité, peuvent être appliquées. Donc comment on les norme, comment on les encadre? Mais il y a les questions propres, évidemment, à la religion. Et je crois qu'il ne faut pas du tout fuir ce débat, qui est un débat très, très respectable. Moi, je crois que la France, c'est d'abord une histoire, c'est pour ça que j'ai parlé d'histoire, qui doit être assumée dans ses grands comme dans ses mauvais moments, qui doit être partagée, y compris par les gens qui sont naturalisés français. Quand on naît avec un accent circonflexe, ou quand on devient français, on porte le bon et le mauvais. On porte cette histoire de France qui est notre patrimoine commun en tant que citoyen, citoyenne française. Mais c'est aussi une histoire qui doit englober la totalité de notre histoire, qui ne doit pas oublier le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud. Je prends un exemple, Abdelkader. J'ai vérifié, avant de parler d'Abdelkader, l'état des manuels d'aujourd'hui, puisque mes souvenirs scolaires sont lointains. Moi, j'avais le souvenir d'Abdelkader, farouche combattant contre la France, et la Smala, truc folklorique. Bon, j'ai appris depuis que la Smala, ce n'est pas folklorique, sauf à des yeux ignorants, c'est un principe politique qui fait que toutes les tentes sont à égalité de distance de la tente du chef. Deuxièmement, à ma connaissance, dans aucun manuel, en tout cas ceux que j'ai pu consulter, ne figure le fait qu'après avoir combattu la colonisation, l'occupation française, il est devenu enthousiasmé par les valeurs françaises, qu'il était franc-maçon et qu'il a protégé dans son exil les chrétiens contre les musulmans. La réalité d'Abdelkader, c'est tout ça à la fois, et pas seulement un morceau de sa réalité. Notre identité, c'est vraiment une langue qui permet à la France de peser plus que son poids économique, c'est les notions des droits de l'homme et du citoyen, c'est évidemment la République et la laïcité qui est notre marqueur d'identité, quelles que soient nos convictions politiques, mais ça c'est aussi un projet pour l'avenir. Et nous bâtissons certainement, je sors là du cadre strict de la laïcité, du fait que les idéologies se sont affaiblies et que, pour savoir dans quel type de société nous voulons vivre, il manque des réponses, en tout cas elles sont insuffisantes et insatisfaisantes. Mais c'est pour moi aussi l'identité, c'est aussi d'avoir des projets, pour le coup, qui peuvent être différents. Tout ce que j'ai dit, les Républicains peuvent le partager. Et je voudrais, en terminant, vous soumettre sur cette question d'identité une citation de François Mitterrand, qui date du 18 mai 1987, donc plus de 30 ans, lors d'un colloque à la Sorbonne. Et il disait ceci. « Qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons nous placer de nous-mêmes dans un musée, objet derrière une vitre auquel personne ne pourra toucher ? Nous sommes Français, nos ancêtres les Gaulois, un peu Romains, un peu Germains, un peu Juifs, un peu Italiens, un peu Espagnols, un peu Portugais, un peu Polonais. » Et je me demande si nous ne sommes pas déjà un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase inquiétante, c'est celle-là qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers de ce qu'ont été ceux d'avant, considère que ceux d'après, ceux du siècle prochain, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre.